François, bonjour tout le monde. Alors, la semaine dernière, à la National Gallery de Londres, deux jeunes activistes climatiques ont jeté de la soupe à la tomate sur le tableau Les Tournesols de Vincent Van Gogh. Enfin, plus exactement, ils ont jeté de la soupe sur la vitre de protection qui se trouve devant le tableau, une action qui fut condamnée par tout le monde politique, absolument tout le monde, de la gauche à la gauche de la gauche jusqu'à la droite, et la droite de la droite. Et là, les amis, mais quelle surprise! Moi qui pensais que tous ces gens, ministres, présidents de partis, chefs d'assemblée, professionnels du pouvoir et de la politique, ne s'intéressaient pas à l'art. Quel idiot j'ai été! Je le reconnais ce matin, mea culpa, j'étais confit dans mes certitudes imbéciles et dans mes a priori un peu traumatisés aussi, c'est vrai, par le traitement dont la culture fut l'objet pendant le confinement, un peu blessé probablement par les attaques répétées contre son financement et ses subsides, présentés comme du gaspillage d'argent au profit de, je cite, une petite élite hors sol qui ferait mieux d'avoir un vrai travail. Mais je me trompais, car en réalité, les élus, les ministres, les présidents de parti aiment la culture. Ils l'aiment au point de vivre les attaques à son encontre comme une blessure personnelle. Et que si on peut supporter beaucoup de choses, la misère qui monte, l'aveuglement climatique, l'égoïsme du monde, de la soupe sur une vitre, c'est trop. C'est Mozart qu'on assassine, c'est Molière qu'on sous-titre, c'est un chaton qu'on étrangle. Les amis, cet événement a complètement changé mon regard sur les hommes et les femmes politiques. Depuis des années qu'ils se désintéressent de la culture, je leur imaginais des cœurs aussi secs que des galets et l'esprit tout entier tourné vers les intérêts personnels, la soif du pouvoir et les échéances électorales. Mais non, ils ont l'âme tendre, le regard sentimental, les émotions au bord des yeux. C'est le soir, c'est le mois de novembre, c'est une petite rue bruxelloise. Après une longue journée passée au cabinet à chercher comment expliquer qu'une centrale à charbon est plus respectueuse de l'environnement qu'un réacteur nucléaire, Jean-Marc Nollet rentre chez lui. Et là, dans la tiédeur de son boudoir, sur sa chaîne Bang & Olufsen, il écoute les notes déchirantes de La nuit transfigurée d'Arnold Schoenberg. Seul, agenouillé sur son tapis Ikea en forme de banane, il sent la mélodie composée en 1899 lui décapsuler l'âme et projeter ses synapses vers le mystère du grand tout. L'art est ce qui lui permet de survivre à la chute des colos dans les sondages. D'ailleurs, c'est décidé, à partir d'aujourd'hui, il consacrera toute son énergie à se battre pour financer les conservatoires de Belgique dont les locaux sont si vétustes que pendant les cours, le plâtre tombe sur la tête des élèves. La musique fait battre le cœur des humains bien plus fort que la politique. Voici à présent Jean-Claude Marcourt. La lourde silhouette du président du Parlement wallon ploie sous la charge des secrets d'alcôve. Et c'est un jour qui s'annonce mal. Il n'y a plus de place dans l'armoire où l'on classe ensuite les affaires d'intercommunales véreuses. Il demande qu'on le laisse seul un instant. Là, dans le silence de son bureau de président, il pose les yeux sur une reproduction de la toile Composition 10 de Vassili Kandinsky. Des formes abstraites peintes sur un fond noir se dégagent, une étrange émotion qu'il ne parvient pas à nommer, mais qui, mystérieusement, remue le limon de ses souvenirs, de la lumière dans le jardin de son enfance, la voix d'une personne aimée il y a longtemps, le parfum d'un amour disparu. Et l'esprit de Jean-Claude, libéré des contingences, s'élève soudain pour rejoindre un ciel rempli d'amour. Et voilà que la vie semble enfin avoir un sens, comme il aime l'art, Jean-Claude. D'ailleurs, il veut des musées, plein de musées, des musées gratuits pour tous, et revaloriser le salaire des professeurs d'académie et des biennales de Venise, plein de biennales de Venise, sauf que ce sera à Liège. Mais, et là... Mais quelle est cette ombre qui s'avance, solitaire et furtive, dans le crépuscule montois, ses cheveux mi-longs qui volaient au vent comme la crinière d'un petit cheval? Mais oui, c'est Georges-Louis Boucher. Pressé de rentrer chez lui, il monte l'escalier 4 à 4, jette son trench Burberry sur la chaise de la cuisine et sort de sa mallette Vuitton, une édition de poche du roman Madame Bovary de Flaubert. Toute la journée, il a attendu de pouvoir se replonger dans la lecture. C'est le moment où le docteur Bovary voit Emma pour la première fois. Le soleil allongeait sur les pavés de grandes rayes minces qui se brisaient à l'angle des meubles et tremblaient au plafond. Des mouches sur la table montaient le long des verres qui avaient servi et bourdonnaient en se noyant au fond dans le cidre resté. Le jour qui descendait par la cheminée, veloutant la suie de la plaque, bleuissait un peu les cendres froides. Entre la fenêtre et le foyer, Emma cousait. Elle n'avait point de fichu. On voyait sur ses épaules nues de petites gouttes de sueur. La beauté du texte et la perfection de l'image perforent le cœur du jeune président. Des sanglots inattendus lui remontent dans la gorge et voilà qu'il pleure à gros bouillons sur sa simple condition humaine et dans un élan d'amour pour son prochain, il sait que désormais, il consacrera toute son énergie à l'encouragement de la littérature sous toutes ses formes, romans, poésie, nouvelles, slam. Il veut des festivals, il veut des fondations, il veut des résidences d'auteurs, il veut que les artistes aient un vrai statut en lieu et place du machin tout pourri qu'on leur a vendu comme une révolution, car il a compris l'importance fondamentale de l'art et de la culture dans les fondations d'une civilisation. Je n'y croyais plus, les amis, mais j'avais tort. L'avenir s'annonce plein de promesses. À la semaine prochaine.